Il est 11h30, Infomag, Jean-François Baudin.
Manuel Valls rentre à Paris sans accord. Son projet d'indépendance association n'a pas été validé lors du conclave de Dévard. La fête à Coumac, c'est demain la 26e édition de la fête de la génisse à la broche sur le champ de foire. Dans la région, le Parlement vanoitais adopte 5 amendements de la Constitution. Ils sont censés lutter contre l'instabilité politique chronique. Léon XIV, nouveau pape, ce cardinal américain de 69 ans, a été élu ce matin au 4e tour de vote du conclave. Quels ont été ses premiers mots? Qui est-il? Une page spéciale dans ce journal. Et puis dans la page sport, les matchs retour des demi-finales de Ligue Europa et de Ligue Europa Conférence, on connaît désormais toutes les affiches des finales européennes. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal qui sera suivi comme chaque vendredi par le magazine Transparence. Elisabeth Noir, bonjour.
Bonjour Jean-François.
Dont l'invité sera aujourd'hui Sonia Backès.
Oui, Sonia Backès qui conduisait, on le sait, la délégation loyaliste pour les discussions institutionnelles sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Nous reviendrons avec elle, bien sûr, sur l'échec de ces discussions et sur l'absence d'un accord au terme du déplacement de Manuel Valls. On se retrouve donc d'ici une demi-heure en compagnie de Sonia Backès, juste après votre journal.
Un sujet qui sera aussi au cœur du club politique Radio Rythme Bleu à partir de 16h45.
Un sommaire d'évidence pour ce club politique. Nous dresserons là encore le bilan de la visite de Manuel Valls et nous interrogerons sur l'échec des discussions, sur leurs raisons et leurs conséquences, mais aussi sur les différentes réactions que cela suscite. Et puis nous essaierons de dire un mot également sur l'événement du jour, l'élection du pape Léon XIV. Voilà pour le menu de ce club politique qui débute cet après-midi à 16h45.
Il n'y a donc pas d'accord sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. Manuel Valls est reparti hier après-midi pour Paris au terme de son 3e déplacement en 3 mois sur le territoire. Un déplacement d'une dizaine de jours, dont 3 jours et demi passés en conclave au Sheraton d'Eva. Et malgré son souhait, Manuel Valls est reparti sans qu'aucun accord n'ait été conclu, Elisabeth.
Eh oui, pas d'accord à l'issue du 3e déplacement de Manuel Valls, mais on aura beaucoup discuté ces derniers jours. Toutes les délégations étaient autour de la table et malgré des moments de tension, personne n'a claqué la porte. C'est sans doute le seul élément de satisfaction que peuvent avoir le ministre des Outre-mer Manuel Valls et le conseiller spécial du Premier ministre Éric Thiers. Les discussions à huis clos s'étaient prolongées, on le sait, tard dans la soirée de mercredi, et tous les groupes politiques avaient passé une nuit supplémentaire au Sheraton d'Eva. Mais en vain, le constat a dû être fait hier matin, aucun accord n'a pu être trouvé. Et de retour à Nouméa à la mi-journée, le ministre des Outre-mer a fait une déclaration face à la presse. Il a dressé le bilan de ses discussions sur l'avenir et il a livré sa version des faits en dressant un constat d'échec.
Nous devons constater donc avec franchise qu'aucun accord n'a été conclu. Ce qui ne permet pas de régler notamment la question de la composition du corps électoral et celle de l'exercice du droit à l'autodétermination. Ce qui ne permet pas de stabiliser surtout la Nouvelle-Calédonie pour les mois qui viennent.
Manuel Valls a indiqué que 2 projets avaient été examinés en profondeur lors du conclave qui s'est tenu du 5 au 7 mai à Deva. Celui qu'il a lui-même mis sur la table et celui des partisans de la France, mais qu'aucun des 2 projets n'a pu recueillir de consensus. Le ministre des Outre-mer ne cache pas sa déception, mais il se console en relevant que des points de convergence ont été trouvés. Il annonce aussi l'organisation d'élections provinciales avec un corps électoral gelé et il revient sur les propos sur le chaos qu'il avait tenu dès son arrivée.
J'ai dit, il y a quelques jours, je vous ai dit que s'il n'y avait pas d'accord, le chaos était possible. Je crois sincèrement, et je ne suis pas le seul, je l'ai entendu hier de la part des responsables politiques, que le vide laissé par l'absence d'un compromis est lourd de menaces. Il y avait beaucoup d'espoir chez les Calédoniens dans les conclusions de nos discussions. Je sais leur déception et leur inquiétude.
Et dans cette déclaration face à la presse, Manuel Valls a aussi rappelé que plus de 3 milliards d'euros avaient été engagés pour la Calédonie en 2024, et il ajoute qu'en 2025, ce soutien se poursuivra à un niveau comparable.
Et hier après-midi, ce sont les loyalistes et le Rassemblement qui rencontraient la presse pour réagir aux déclarations du ministre et revenir sur l'absence d'accord.
Les membres des 2 délégations, loyalistes et Rassemblement, ont exposé à leur tour leur vision des faits. Ils accusent Manuel Valls d'avoir tué la négociation dans l'œuf en proposant d'emblée un projet d'indépendance association. Nicolas Mézeroff était en direct hier soir sur notre antenne et il lui a été demandé s'il était déçu de l'absence d'accord.
Nous, on cherchait un accord qui permette aux Calédoniens de dire voilà les nouvelles règles du jeu et de se projeter dans l'avenir avec un statut qui soit définitif. Mais en même temps, je ne peux pas être déçu parce qu'on a gardé la Nouvelle-Calédonie française. Et le risque était grand. Manuel Valls est venu avec un projet d'indépendance association dont on n'avait jamais parlé jusqu'ici.
Mais le ministre des Outre-mer n'a jamais parlé publiquement d'indépendance association.
Je trouve que ce n'est pas honnête de sa part, dans la mesure où quand on dit qu'on veut transférer les compétences régaliennes à la Nouvelle-Calédonie, quand on dit qu'on a une double nationalité et quand on dit qu'on a une reconnaissance internationale, donc un siège à l'ONU, pardon, mais ça c'est l'indépendance association. Le pire, c'est que jamais, mais jamais dans les discussions qu'on a eues auparavant, à la fois à Paris, à la fois ici à Nouméa lors de ces deux premières visites, ni pendant les visioconférences qu'on a eues pendant quelques mois, jamais on a abordé le sujet de la double nationalité, jamais on a abordé le sujet du transfert des compétences régaliennes, encore moins le siège à l'ONU. Et là, d'un coup, Manuel Valls arrive en Nouvelle-Calédonie lors de sa dernière visite. Pouf, indépendance association. Comment voulez-vous qu'on accepte ça ?
Les partisans de la France ne pouvaient pas approuver la proposition du ministre des Outre-mer et pour plusieurs raisons, explique Nicolas Metzdorf.
La première, c'est que ce n'est pas le choix des Calédoniens. Les Calédoniens ont choisi que la Calédonie devait rester française. Donc, on ne peut pas bâtir un pays sur la négation d'un choix démocratique. Et la deuxième raison, c'est qu'on ne pouvait pas trouver d'accord avec ça. Comment voulez-vous que les indépendantistes fassent des concessions ou des pas vers les non-indépendantistes puisqu'ils ont en premier soutien le ministre d'État de la République ? Il a tué, clairement, la possibilité de réussite du conclave de débat.
Voilà donc pour ces réactions. Et le FLNKS, à l'inverse, Elisabeth, semble plutôt satisfait de la proposition posée par le ministre des Outre-mer.
La proposition de Manuel Valls est en cohérence avec le projet d'accord du FLNKS remis le 30 avril au ministre de l'Outre-mer dans un communiqué signé d'Emmanuel Tchibaou. Le FLNKS relève que le projet de l'État pose les bases d'une nation avec des liens d'État à État avec la France. Un projet qui se décline par le transfert des compétences régaliennes à la Nouvelle-Calédonie avec délégation immédiate à la France pour certaines d'entre elles, l'instauration d'une double nationalité et la définition d'un statut internationalement reconnu. Cette proposition intègre les attributs même d'un État souverain et s'inscrit dans le processus de décolonisation initié par les accords de Matignon et de Nouméa, ajoute le FLNKS, qui estime, et je cite toujours, que l'État a franchi un pas dans sa responsabilité et ses engagements devant les Nations Unies de décoloniser le pays. Le FLNKS précise que néanmoins, ce projet devrait être consolidé pour tenir compte de l'ancrage du pays dans sa région et du contexte géopolitique instable. Fin de citation.
De son côté, l'éveil océanien estime que l'impossibilité de trouver un accord ou un compromis politique est un échec, mais pour autant, le parti de Mila Kouloutou Koumouli se satisfait de la tenue du conclave.
Nous, on considère à l'éveil océanien que Valls a réussi sa mission. De nous mettre tous les partenaires politiques autour d'une même table pour discuter et in fine négocier. Le gouvernement a posé sur la table trois projets. Projet numéro 1, souveraineté avec la France. Donc c'est un projet de constitution calédonienne inscrite au titre 13 de la constitution française. Manuel Valls a dit que, au titre du gouvernement, c'était son projet favori. En ce qui nous concerne, nous, l'éveil océanien, on a défendu toujours un projet de partenariat programmé avec la France. Donc, en somme, une souveraineté avec la France. Donc, nous, on est favorable à ce projet-là.
Les deux projets évoqués par Mila Kouloutou Koumouli sont le projet des partisans de la France et de la prolongation de l'accord de Nouméa. L'éveil océanien souhaite désormais que Paris prenne de nouvelles initiatives pour maintenir le dialogue en attendant les prochaines élections provinciales. Réaction également de Calédonie Ensemble, qui estime que renoncer au consensus, c'est renoncer à la paix et qui regrette que le conclave de Deva se soit soldé par un échec. Le parti de Philippe Gomès parle d'échec collectif et annonce qu'il va prendre des initiatives dans les prochaines semaines pour tenter une ultime fois de convaincre les forces politiques du pays qu'un accord est possible. Du côté des indépendantistes, l'UCE doit donc se réunir aujourd'hui pour faire le point de la situation et l'UNI annonce qu'elle rencontrera la presse en début de semaine prochaine.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure de votre rendez-vous SMS avec notre question du jour. Comprenez-vous que les négociations autour du projet d'indépendance association porté par Manuel Valls n'aient pas abouti à la signature d'un accord ? Si vous le comprenez, vous tapez 1. Si vous ne le comprenez pas, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse au 3146. Léon XIV est le nouveau pape de l'Église catholique. Il a été élu tôt ce matin pour nous. On en parle dans une page spéciale juste après une première pause.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
5 francs de remise sur le carburant grâce à votre carte senior et vos points fidélité x3.
Avec vos stations Shell et Pacifique, bénéficiez d'une remise sur le carburant de 5 francs par litre tous les jours grâce à votre carte senior. Et encore mieux, avec votre carte fidélité Shell et Pacifique, faites x3 sur vos points en plus de la remise. Les stations Shell et Pacifique, toujours à vos côtés pour économiser.
Pur Essentiel, l'expert des huiles essentielles, s'engage dès aujourd'hui à vous offrir le meilleur du bio au meilleur prix pour votre santé et votre bien-être. En direct de nos producteurs locaux, les huiles essentielles Pur Essentiel sont certifiées 100% bio, pures et naturelles. Pur Essentiel, l'efficacité à l'état pur.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
La suite d'Infomag avec l'actualité religieuse.
Habemus Papam. Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Prevost. Qui sibi nomen imposuit Leonem Decimum Quartum.
Léon XIV est donc le nouveau pape de l'Église catholique. Il était 4h08, heure de Nouméa ce matin, lorsqu'une fumée blanche s'est élevée au-dessus de la cheminée placée sur le toit de la chapelle Sixtine, signe que les cardinaux ont trouvé le successeur de François au quatrième tour de scrutin et au lendemain de l'ouverture du conclave. 4 minutes plus tard, le cardinal français Dominique Memberti, que vous venez d'entendre, a annoncé la bonne nouvelle au monde entier. Le monde entier a alors appris que le nouveau pape est un cardinal américain, Robert Francis Prevost, qu'il a choisi le nom de Léon XIV pour la durée de son pontificat. Et 15 minutes plus tard, le nouveau pape est apparu à la loggia de la basilique Saint-Pierre pour adresser son premier message aux fidèles.
La pace sia con tutti voi.
La paix soit avec vous tous.
Fratelli, sorelle, carissimi. Questo è il primo saluto del Cristo risorto, il buon pastore
che ha dato la vita per il gregge di Dio. Cristo risuscité, bon pasteur.
Anch'io vorrei che questo saluto di pace entrasse nel vostro cuore.
Je voudrais que ce premier salut traverse votre cœur. Et celui de nos familles, à toutes les personnes,
ovunque siano, a tutti i popoli,
à tous les peuples,
tutta la terra,
à toute la terre,
la pace sia con voi,
la paix soit avec vous,
et il male non prevarrà,
le mal ne prévaudra pas,
tutti nelle
nous sommes
mani
tous
di Dio.
Dans les mains de Dieu.
Voilà donc les premiers mots prononcés par le nouveau pape Léon XIV à la loggia de la basilique Saint-Pierre. Dès qu'ils ont su qu'une fumée blanche s'était élevée de la chapelle Sixtine, les fidèles se sont rassemblés en nombre sur la place Saint-Pierre pour vivre ce moment historique. Et parmi eux, de nombreux Français. Frédéric Michel, envoyé spécial d'Europe 1, a rencontré certains d'entre eux.
Un moment de joie, de fête et de communion. Et lorsque les fenêtres du balcon de la loggia centrale de la basilique Saint-Pierre se sont ouvertes, ben à ce moment-là, il y a eu une explosion de la foule qui a applaudi. Et le pape est apparu quelques secondes après.
C'est une date dans l'histoire que je ne vais jamais oublier. C'était vraiment quelque chose pour moi d'être ici aujourd'hui pour voir ça. Puis je suis bouche bée.
On dirait que c'est une fête, une grande fête. De famille et c'est heureux pour notre église.
Mais quelques dizaines de minutes avant l'apparition de Léon XIV, il y avait eu cette fumée blanche qui s'est élevée dans le ciel de Rome au-dessus de la chapelle Sixtine et ils étaient déjà des dizaines de milliers de personnes rassemblées sur la place Saint-Pierre.
En direct, oui, en plus j'ai entendu les voix des gens. Je me suis retournée, je vois la fumée blanche. Waouh, c'est vraiment une belle émotion.
Le père Ambroise Richer est arrivé de Nanterre avec un groupe de pèlerins français.
On a couru en laissant nos affaires en vrac pour arriver à peu près à temps pour entendre voilà, la bénédiction et les premiers mots du pape.
Et dans la foule, une mère et son fils, très émus, ils sont italiens et américains, ils avaient rencontré il y a quelques jours le nouveau pape.
Il a dit la messe et on est allé le connaître après la messe. Et donc nous sommes très émotionnés.
Oui, 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 je suis très contente que c'est américain, très content.
Et actuellement, autour de la place Saint-Pierre et tout autour, il y a encore beaucoup de monde. Et ce qui frappe, c'est le sourire de toutes ces personnes rassemblées ici à Rome.
Le cardinal Prevost, donc, qui est devenu Léon XIV, est un Américain de 69 ans. Il n'est pas connu du grand public. Son parcours et sa personnalité, avec Louis Salé pour Europe 1.
C'est un natif de Chicago, dont le père est d'origine française, membre de l'ordre de Saint-Augustin. Il a fait de solides études théologiques et a passé une grande partie de sa vie au Pérou, où il a été évêque, avant d'être nommé il y a 10 ans à Rome, à la tête d'un important dicaster, une sorte de ministère au Vatican, où il était chargé de nommer les évêques. Réputé discret, à l'écoute, plutôt modéré, capable de concilier les points de vue divergents, il a soutenu les efforts initiés par François et en prenant le nom de Léon XIV. Il s'inscrit dans une démarche de justice sociale et de défense des plus pauvres. Bernard Lecomte, historien, réagissait tout à l'heure sur Europe 1.
Il s'inscrit dans l'héritage de Léon XIII, qui a été le pape le plus progressiste des temps modernes. C'est Léon XIII qui a inventé la doctrine sociale de l'Église. C'est Léon XIII qui avait dit aux Français « Lâchez la monarchie et le royalisme, adhérez à la République, ralliez la République ». Donc voilà un pape qui est très social et très attaché à la République.
Polyglotte, Léon XIV parle 5 langues. Il a une fine compréhension de l'Église multiculturelle et de ses divergences. C'est pourquoi il veut rassembler, construire des ponts, comme il l'a dit dans son discours, en ayant ce souci, comme François l'avait, des périphéries, c'est-à-dire des catholiques du Sud ou extra-européens, longtemps ignorés par l'Église de Rome.
De nombreux observateurs cherchent à savoir si ce pape Léon XIV est plutôt progressiste ou plutôt conservateur, des catégories un peu caricaturales, estime Véronique Jacquier. Elle est journaliste spécialiste des religions sur CNews.
Moi, je dirais que c'est une synthèse des deux et bien malin qui peut dire effectivement à quoi va ressembler son pontificat. Par exemple, est-ce qu'il va suivre la ligne de François sur la question des femmes dans l'Église ? On sait déjà qu'il a écarté la possibilité d'avoir des femmes diacres. Donc vous voyez, il reste dans quelque chose de très traditionnel et il l'a assumé. Donc je ne suis pas sûre qu'on ait de grandes surprises avec lui. Je pense que non, il ne faut pas attendre de lui qu'il soit un progressiste. Mais oui, il comprend ce que le pape François dit quand il parle de périphérie. En revanche, il va peut-être faire quelques ajustements pour donner à tous dans l'Église le sentiment d'être entendu et d'être à sa place.
Et savoir si le pape Léon XIV est plutôt progressiste ou plutôt conservateur, ce n'est pas la question essentielle pour l'ancien directeur de la rédaction de La Vie, Jean-Pierre Denis.
La grande question, c'est est-ce que le pape correspond aux questions fondamentales de son époque. Voilà. Et ça, on ne le sait pas d'avance, parce que les cardinaux y ont bien réfléchi, et parfois, il y a une surprise. Pape François s'est révélé tout à fait autre que le cardinal Bergoglio avant son élection, parce qu'il y a un mystère dans cette élection. Là, je le dis non seulement parce que je suis catholique, mais je le dis aussi en observateur, c'est une élection qui transforme son homme. Voilà. Un autre homme arrive.
L'élection de Léon XIV a suscité de nombreuses réactions dans le monde. Donald Trump a parlé d'un grand honneur pour les États-Unis. Le chancelier allemand Friedrich Merz a été l'un des premiers à féliciter publiquement le pape qui, selon lui, donne espoir et orientation à des millions de croyants. Emmanuel Macron a lui aussi plaidé pour que ce nouveau pontificat soit porteur de paix et d'espérance. Le président israélien Isaac Herzog a indiqué que son pays aspire à renforcer les relations entre Israël et le Saint-Siège, ainsi que l'amitié entre juifs et chrétiens en Terre Sainte et dans le monde entier. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a également félicité Léon XIV tout en espérant que le nouveau pape soutiendra moralement l'Ukraine face à l'agresseur russe. Vladimir Poutine, lui, se dit sûr qu'un dialogue constructif se poursuivra avec le nouveau pape. En Calédonie, on a donc appris l'élection de Léon XIV très tôt ce matin. Écoutez la réaction du père Ngol, le curé de l'église du Vœu.
Tout d'abord, une très grande joie pour nous, pour l'église universelle, d'avoir un nouveau pape, nouveau pasteur, pour conduire le peuple de Dieu, puisque après la mort, le décès du pape François, il y a quand même un temps vide et nous avons vraiment hâte d'avoir un nouveau pasteur en la personne du pape pour conduire le peuple. C'est l'Esprit Saint qui a travaillé. Nous sommes très heureux.
Un pape inconnu du grand public et qu'il va donc falloir maintenant apprendre à connaître.
C'est une figure très peu connue. Avec tous les dires et prononcés, etc. Et finalement, c'est l'Esprit Saint qui travaille. Comme on dit, la voix du Seigneur impénétrable. Et il est dans la tête du dicastère pour des évêques. Il y a un peu 2 ans, un peu plus. Est vraiment inconnu au public. Mais je pense que comme ses premières paroles, c'est « La paix soit avec vous », comme l'a repris la salutation de Jésus à ses apôtres en ce temps de Pâques, est tout à fait approprié. Et puis, il a souci pour la paix dans le monde et la justice. Et moi, je pense que dans sa lignée, dans son programme, certainement, il donne une grande importance de paix et justice sociale.
Et notez que le pape Léon XIV célébrera dès demain à 11h heure de Rome, une messe avec les cardinaux dans la chapelle Sixtine. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'élection de Léon XIV comme nouveau pape de l'Église catholique. Une nouvelle pause dans ce journal et on revient dans un instant à l'actualité en Calédonie.
Toute l'info en 3 lettres, RRB.
La province Sud déploie SudPro. SudPro, c'est une plateforme novatrice qui interconnecte les patentés et les très petites entreprises durement éprouvées par la crise. C'est un dispositif fort, financé à hauteur de 1 milliard de francs par la province Sud, soit 250 000 francs par entreprise ou patenté. c'est surtout une aide directe et immédiate pour permettre de relancer l'activité. SudPro sera disponible dès la semaine du 5 mai depuis province-sud.nc. Avec SudPro, reconstruisons ensemble.
Et si cette année, on chouchoutait nos mamans? Jusqu'au dimanche 25 mai, joue avec Arnott, c'est tente de lui offrir un week-end détente, une journée au spa ou un coffret de pâtisserie pour partager un moment ensemble. Réalise une recette avec ton produit Arnott's préféré et double tes chances de gagner. Pour jouer, rendez-vous dans l'un des magasins participants. Plus d'informations sur le Facebook Arnott's Community NC. Jeu gratuit sans obligation d'achat. Règlement disponible chez Maître Citrita.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Retour à l'actualité en Calédonie avec d'abord les faits divers et à Robinson, cette soirée d'anniversaire qui dégénère au petit matin. Une quarantaine d'individus alcoolisés se sont aventurés dans les lotissements du quartier. Deux maisons ont été sérieusement dégradées selon la gendarmerie. Un véhicule a été volé puis retrouvé un peu plus tard. Les gendarmes intervenus rapidement sur place ont interpellé l'un des fauteurs de troubles. Quelques détritus et obstacles ont également été signalés cette nuit devant la tribu de Saint-Louis. Mais la route est toutefois restée ouverte. Un long week-end animé à Koumac. Depuis jeudi, la commune vit au rythme de la fête de l'écotourisme, baptisée Koumac, c'est Kalolo. Un événement placé sous le signe de la nature, du patrimoine et des savoir-faire locaux. Une multitude d'activités de plein air sont proposées par les partenaires locaux. Et le point d'orgue du week-end sera la découverte. Ce sera la 26e fête de la génisse, Kéline Dawakou.
Depuis lundi, c'est l'effervescence sur le champ de foire de Koumac. L'équipe du comité foire met les bouchées doubles pour préparer cette 26e édition de la fête de la génisse. Au programme demain, en plus de la dégustation de la génisse à la broche, prévue à 11h30, les visiteurs pourront profiter notamment des jeux équestres. Les précisions de Christophe Chiara, le président du comité foire de Koumac.
On a diverses animations, donc les fameux jeux équestres de la fête de la génisse, donc pour les amateurs de chevaux, donc barrel race, course de stock, petit parcours, grand parcours. Il y a une bonne dizaine de courses qui sont organisées au long de la journée. On a travaillé cette année, un peu comme l'année dernière d'ailleurs, avec le marché océanien pour amener encore plus de produits locaux sur la fête de la génisse et puis pour que à un seul endroit, on retrouve un peu tout le nord, on va dire ça comme ça. Il y a le marché de Gomène qui est avec nous aussi. Il y a des gens du marché de Vaux et des gens du marché de Pointe-Bout. Des stands, on est aux alentours de 60 stands de tout, en fait, des plantes vertes, un peu de restauration. Alors la restauration, c'est particulier parce que l'événement phare, c'est la génisse, donc des accompagnements, des produits tahitiens, des salades tahitiennes, du poisson. Il y a tout ce qui est produits vivriers, produits locaux. Voilà, on va trouver un peu de ce qu'on trouve un peu en général dans nos marchés ou dans nos fêtes de village, quoi.
L'équipe désignée pour la cuisson de la génisse à la broche est déjà dans les préparations. La génisse sera mise sur le feu à 18h ce soir. Le chef d'orchestre sera Lionel Medevielle, le trésorier du comité foire de Koumac.
Puis hier, je suis sur le champ de foire et on fait les préparations. Bon, déjà le nettoyage, mais aussi la marinade, parce que tous les ans, il manque de la sauce pour mettre dans les barquettes avec la viande. Cette année, on est parti sur 120 litres de sauce.
Une sauce spéciale Lionel Medevielle?
Oui, voilà, c'est ça. Qu'on fait régulièrement, toujours avec des oignons, qu'on fait confire, avec du vin blanc, de la tomate. Les sauces, elles mijotent à peu près pendant 5 à 6 heures avant de pouvoir être servies avec la génisse. On va la mettre sur le feu à partir de 18 heures. Il y a les gens de Koumac, des alentours, les personnes qui vont venir pour mettre leur stand aussi, peuvent venir à ce moment-là voir la bête, parce que c'est une très belle bête cette année, plus grosse que les autres années. Donc ils pourront assister à la cuisson et nous, on est en gros trois personnes à faire toute la nuit. On va se relayer pour passer une marinade toute la nuit pour la découpe à 11h le lendemain. On est parti sur 850 barquettes cette année, de 500 grammes de viande pour 800 francs la barquette. Il y a une petite dégustation qu'on va pouvoir présenter avec une partie.
La 26e édition de la fête de la génisse à la broche, c'est demain de 8h à 15h sur le champ de foire de Koumac.
Radio Rythme Bleu, 11h54.
C'est le général de division Yann Latil, le commandant supérieur des forces armées en Nouvelle-Calédonie, qui était ce matin notre invité à 7h30. L'occasion de revenir avec lui sur l'exercice Croix du Sud qui s'est achevé en fin de semaine dernière. Un exercice interallié qui s'est déroulé en partie à Wallis et Futuna, qui aura été une réussite tant sur le plan strictement militaire que d'un point de vue humain, nous a-t-il dit. Exercice qui a mobilisé près de 2000 militaires de 22 nations. opération qui aura aussi permis de tester de nouveaux matériels, logiciels, drones ou encore réseaux satellites, a dit le général Latil.
On a par exemple testé un logiciel de l'armée singapourienne de suivi des opérations de catastrophes naturelles qui a été déployé en Thaïlande et en Birmanie suite aux tremblements de terre qu'ils ont vécu et qu'on a testé ici en exercice. Extrêmement utile, on sait en temps réel ce qui se passe sur le terrain avec des photos prises par les opérateurs qui remontent directement en centrale. On a également développé des moyens de suivi de nos opérations en déployant des drones à Wallis dont les images étaient reportées à Ploumes, au RIMAP et sur le centre opération de Nouméa. Donc des choses très intéressantes. On a utilisé Starlink, bien connu dans la région, mais également la constellation OneWeb sur laquelle nous travaillons pour l'améliorer, qui sera probablement un des supports dans les années à venir, puisqu'elle est opérée en partie par Eutelsat, qui est une société française.
Nous avons également interrogé le général Latil sur la loi de programmation militaire. Sur la période 2024-2030, il est prévu en Calédonie que le ministère des Armées investisse 17 milliards de francs pacifiques dans des projets très précis.
Concrètement, les premiers coups de pioche sont lancés dans quelques jours. Ce sera l'ensemble alimentation de l'artillerie avec un ensemble multiservice au cœur de Nouméa qui va être complètement renouvelé. Nous attendions la fin de l'exercice Croix du Sud et à partir de la semaine prochaine débute ce chantier. L'idée c'est d'avoir 2 ans entre 2 Croix du Sud puisque nous utilisons 6 infrastructures pour transformer complètement ce MES pour un meilleur accueil de nos familles, un meilleur accueil de nos soldats. C'est vrai aussi à la Tontouta où nous préparons l'arrivée de nouveaux aéronefs qui remplaceront les gardiens, avions de surveillance maritime, le remplacement des hélicoptères qui nécessite aussi de nouvelles infrastructures. Et un peu plus loin, ce sera une zone technique à Ploumes pour le régiment d'infanterie et puis le probablement fin de loi de programmation militaire, horizon 2030, le rallongement des de la base navale.
Le général Latil, commandant supérieur des FANG, qui était donc ce matin notre invité. Vous pouvez retrouver cette interview sur notre site internet rrb.nc. Dans la région du changement, dans la constitution du Vanuatu, réunie en session spéciale, le Parlement vanuatais s'est donc réuni à Port-Vila pour introduire 5 nouveaux amendements. La correspondance de Jean-Pierre Zajac.
Ces 5 amendements ont été adoptés par la vaste majorité des 52 membres du Parlement, vu qu'ils ont été approuvés par 49 députés. Les 3 autres se sont toutefois abstenus. Au terme du principal de ces amendements, tout nouveau Premier ministre jouira d'une période de grâce de 12 mois pendant laquelle aucune motion de censure ne pourra être déposée contre son gouvernement. Les députés ont également décidé que le vote deviendra obligatoire tant pour les législatives que pour toute forme de référendum. Ils ont également convenu de définir officiellement le genre des habitants de l'archipel qui seront désormais classés selon leur sexe, à savoir masculin ou féminin, ce qui exclura donc toute forme plus large d'identité. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Et on va refermer ce journal dans un instant avec l'actualité sportive avant de retrouver le magazine Transparence. À tout de suite.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Le comité de foire de Koumaké du Nord vous attend le samedi 10 mai sur le champ de foire de Pandop pour la dégustation de la génisse à la broche à 11h30. Dès 8h30, vous pourrez assister aux jeux équestres. Alors samedi 10 mai, c'est Go Koumak, le carrefour du Nord pour un week-end de Kalolo. Renseignements sur Facebook, événements en partenariat avec la mairie de Koumak, Agridis, Lefroy, OSEF, IVNC et l'agence rurale.
Brunchez dans les jardins du Château Royal. L'Escale vous propose sa carte brunch tous les week-ends à partir de 10h30 et jusqu'à 14h30. Un large choix de saveurs sucrées et salées pour profiter d'un moment gourmand face au lagon. Rendez-vous sur notre page Facebook afin de découvrir toutes nos cartes et suggestions. Informations et réservations au 23 01 30. L'Escale Château Royal, 140 Promenade Roger Larocque.
Il commence à faire frais. J'aurais bien besoin de nouveaux vêtements chauds. Ne tardez pas. Jusqu'au 25 mai, direction Gémeaux pour y découvrir la nouvelle collection hiver qui réchauffera toute la famille à petit prix. Sans oublier les idées cadeaux pour la fête des mères.
Gémeaux, taillé pour la vie de famille.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
Tout le sport en trois lettres, RRB.
L'actualité sportive, on retrouve Jean-François Baudin.
Et on va commencer par le football avec ce matin pour nous Lionel Sabot, les demi-finales retour de la Ligue Europa et de la Ligue Conférence.
Pour la Ligue Europa, la finale verra un choc 100% britannique, ce sera entre Tottenham et Manchester United. Ce matin, Tottenham est allé l'emporter 2-0 sur la pelouse des Norvégiens de Bodø Glimt. Au match aller, les Britanniques s'étaient déjà imposés 3-1. De son côté, Manchester United s'est imposé 4-1 sur l'Athletic Bilbao. Au match aller, la semaine dernière, les Mancuniens avaient fait un grand pas vers la finale en s'imposant 3-0 en Espagne. En Ligue Conférence, la finale verra une confrontation entre les Espagnols du Betis Séville et les Anglais de Chelsea. Chelsea s'est imposé 1-0 sur les Suédois de Djurgårdens. Au match aller, les Anglais s'étaient déjà imposés 4-1. Enfin, le Betis Séville a éliminé la Fiorentina. Au match aller, les Espagnols s'étaient imposés 2-1. Ce matin, les deux clubs ont fait match nul, 2-2. Les joueurs du Betis qui ont décroché leur qualif en égalisant lors de la prolongation de la rencontre.
On parle tennis avec le premier tour du tournoi ATP de Rome et le deuxième tour du tournoi WTA de Rome également.
Chez les messieurs comme chez les dames, c'est une journée une nouvelle fois oubliée dans le camp français. Trois joueurs et joueuses engagés, trois éliminés. Chez les messieurs, Hugo Gaston s'est incliné en 2-7 devant le Chilien Nicolas Jarry. Score final 7-6 et 6-4. Défaite également d'Arthur Rindendeck face à l'Italien Matteo Gigante qui a bénéficié d'une carte d'invitation pour participer à ce tournoi. Le Français s'est incliné en 2-7, 7-6, 7-6. Chez les dames, la Française Varvara Gravcheva n'a rien pu faire face à l'américaine Madison Keys, tête de série numéro 5 du tournoi. Elle s'est inclinée en 2-7, 7-6 et 6-1.
Un mot de rugby avec cette tragique disparition. Josiah Rasuke, figure du Castres Olympique en top 14 et de la sélection olympique de rugby à 7 de son pays, est mort, la Fidji, est mort la nuit dernière au volant de sa voiture, percuté par un train à hauteur d'un passage à niveau sur le chemin entre le centre d'entraînement et son domicile. D'après les premiers témoignages, il apparaît que le véhicule a franchi les barrières de sécurité et a été percuté par la locomotive. C'est ce qu'a déclaré la procureure de la République de Castres. Josiah Rasuke avait rejoint Castres en 2021 après être passé par le Stade français. Cette saison, il avait pris part à 7 rencontres, dont la dernière contre Toulouse fin avril. Il faisait donc également partie de l'équipe de rugby à 7 des Fidji qui avait décroché la médaille d'argent lors des JO 2024 à Paris.
RRB, pour être les premiers et les mieux informés.